VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 17 janvier 2022. En direct de Washington, Idrissa Sidoulia
et John Linden.
Nous commençons par les titres.
Dans quelques instants, le journal de la Cannes avec Emmanuel Juntap.
Au Mali, décès hier à Bamako de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta à l'âge de 76 ans, un an et demi après avoir été renversé par les militaires.
Au Burkina Faso, au moins une dizaine de civils ont été tués dans l'attaque d'un village du nord du pays.
Le terroriste preneur d'otages dans une synagogue du Texas était britannique. Au Royaume-Uni même, arrestation de deux jeunes.
Chose assez rare chez les enfants, un bébé de 3 semaines meurt du Covid-19 au Qatar.
Ce sont là quelques-uns des titres de cette édition.
Une fois encore, bonjour. Coup de tonnerre à la Coupe d'Afrique des Nations de football. La Guinée équatoriale se joue de l'Algérie sur le score d'un 1-0 et met un terme à 34 matchs sans défaite pour les champions en titre. La deuxième journée qui a pris fin hier a livré d'autres surprises sur le terrain. De Yaoundé, nous retrouvons Emmanuel Juntap pour le journal de la CAN. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, 6 matchs comptant pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations de football se sont disputés ce week-end. Hier à Douala, dans le groupe E, l'Algérie s'est fait surprendre par la Guinée équatoriale, 0 but contre 1, but inscrit à la 70e minute par Esteban Ozorsko, libre de tout marquage au deuxième poteau. Avec 3 points, le Zalang National deuxième du groupe met surtout un terme à la série d'invincibilité de 34 matchs des Fenech d'Algérie depuis la CAN de 2018. L'Algérie occupe le deuxième rang au classement avec 1 point et va livrer un match difficile lors de sa troisième sortie contre la Côte d'Ivoire. Les éléphants qui tenaient pourtant une deuxième victoire ont été rattrapés au score par une vaillante équipe séra-lyonnaise. Score final, Côte d'Ivoire 2, Sierra Leone 2. L'on a également joué dans le groupe F à Limbé. La Tunisie s'est relancée en écrasant la Mauritanie 4-0, alors que la Gambie et le Mali se sont séparés sur un score nul d'un but partout. Ce score entre la Gambie et le Mali prouve à suffisance qu'il n'y a pas de petite équipe dans cette compétition, nous dit depuis Bamako notre correspondant Siaka Traoré.
La rencontre de ce dimanche 16 janvier 2022 entre la Gambie et le Mali en dit long. Une confrontation qui commence avec la détermination des Gambiens et des Maliens. La première mi-temps se terminera avec du suspense. Un suspense qui durera jusqu'à la 79e minute, lorsque le Mali a ouvert le score avec un pénalty transformé par Ibrahim Koné. La joie des supporters maliens qui ont cru en ce moment à une victoire des Aigles ne sera qu'une courte durée, puisque la Gambie égalisera 11 minutes après, soit à la 90e minute par un pénalty également. Malgré des tentatives de part et d'autre, la partie se terminera par un match nul. Gambiens et Maliens ont ainsi pris une option pour la qualification au 8e de finale. En 2 sorties, Gambiens et Maliens ont le même nombre de points, 4 points, c'est-à-dire une victoire et un match nul chacun. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Samedi, dans le groupe D à Garoua, le Nigeria a confirmé sa belle forme en venant à bout du Soudan 3-1. L'Égypte, l'autre grosse pointure de ce groupe, a souffert avant de gagner les 3 points du match face à la Guinée-Bissau grâce à un but de Mohamed Salah. À ce stade de la compétition, prenons la direction de Libreville pour retrouver Jules Valentin Goué pour le coup de sifflet du jour.
Bonjour. Après un week-end marathon où le ciel s'est éclairci pour le Gabon, le Malawi, la Gambie, l'Égypte, la Tunisie et la Guinée équatoriale. Sur les traces du Cameroun, le Nigeria et le Maroc poursuivent leur marche triomphale, condamnant presque définitivement les Comores, le Soudan, comme la veille l'Éthiopie. En ce qui concerne les classements, c'est toujours la bouteille à l'ancre, ce qui donne à la troisième journée qui se profile un caractère décisif, rappelant déjà les matchs à élimination directe qui vont suivre. Un casse-tête pour les staffs techniques confrontés à des situations diverses. Pour les équipes qui ont mal démarré, comme le Burkina Faso, le Ghana, le Malawi ou l'Algérie, la victoire est impérative pour décrocher la deuxième ou tout au moins la troisième place. L'équation n'est pas simple non plus pour les états-majors des équipes en pole position, à l'image du Cameroun, du Maroc ou du Nigeria, tenter de faire une revue d'effectifs, car au moindre faux pas, c'est la deuxième place synonyme de rencontre en huitième de finale avec un autre gros bras, quand on sait que l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, voire le Sénégal ont démarré au diesel, plutôt jouer les meilleurs troisièmes. Le premier de cordée ce soir, dans le groupe A, est le Burkina Faso, dans une parfaite opposition de style contre l'Éthiopie, qui n'est pas sans rappeler la même à la deuxième journée pour le Cameroun, dont les qualités sont les mêmes que celles des étalons. Comme vous pouvez le voir, les grandes manœuvres ont réellement commencé et avec elles, des surprises à attendre que la fête continue.
Deux matchs de la troisième journée sont prévus cet après-midi dans le groupe A, à Bafoussam. Le Burkina Faso, au coude à coude avec le Cap-Vert, 3 points chacun, affronte l'Éthiopie, dernier du groupe avec 0 point. Pour les Lions indomptables qui jouent à Yaoundé, il est question de faire le plein en remportant le troisième match face au Cap-Vert, qui peut rattraper le Cameroun au nombre de points en cas de défaite. Le journal de la CAN de ce jour prend fin. Siaka Traoré, Emmanuel Juntap, VOA.
Merci Emmanuel. Dans le reste de l'actualité, l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta est décédé dimanche à son domicile de Bamako à l'âge de 76 ans, un an et demi après avoir été renversé par les militaires. Ibeka a dirigé le Mali de 2013 à 2020. Nous aurons des réactions de Maliens en seconde partie de cette édition avec notre correspondant sur place, Mohamed Danioko.
Mali toujours, l'économiste malien Étienne Fakaba Sissoko a été arrêté dimanche à Bamako et conduit au commissariat du 5e arrondissement de Bamako. Il était entendu pour des propos subversifs et démoralisant, selon un de ses avocats, Abdourahmane Touré. Monsieur Sissoko est professeur d'économie et chercheur au Centre d'analyse politique, économique et sociale du Mali, un organisme privé à Bamako.
Son avocat dit ne pas savoir pour quelle interview ou déclaration publique son client était entendu. Monsieur Sissoko est récemment intervenu dans plusieurs médias maliens et étrangers à propos de possibles répercussions des sanctions de la CDAO et de l'UMOA sur le Mali, sanctions qualifiées d'illégales samedi soir par le premier ministre de la transition, Choguel Kokala Maïga, dans une interview à la télévision publique.
Au Burkina Faso, au moins une dizaine de civils ont été tués ce week-end lors d'une attaque attribuée à des djihadistes contre le village de Namsingian dans le nord du pays. Le point avec Eric Manirakiza.
L'attaque de samedi a eu lieu dans la province du Bam, a déclaré une source sécuritaire. Un habitant de la zone précise qu'il y a également d'importants dégâts matériels, car des boutiques et des commerces ont été incendiés. Les terroristes sont restés pendant plusieurs heures dans le village où ils ont pillé et détruit, a-t-il ajouté, affirmant que les assaillants avaient préalablement saboté les antennes téléphoniques, rendant toute communication impossible. Malgré des opérations militaires contre ces groupes, l'armée a du mal à contenir les violences qui ont fait plus de 2000 morts en 6 ans et contraint plus d'1,5 million de personnes à fuir leur foyer. Fin décembre, une attaque de djihadistes présumés avait fait 41 morts dans le nord du pays, dont des civils et des supplétifs de l'armée. Selon plusieurs médias burkinabés, cette embuscade de djihadistes présumés visait un convoi de commerçants escortés par des volontaires pour la défense de la patrie.
Le nouvel émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a rencontré hier le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, à Tindouf, en Algérie, dans le cadre de sa première tournée régionale, selon l'agence de presse algérienne APS. Lors de cette rencontre, dans un camp de réfugiés sahraouis, le chef du mouvement indépendantiste a redit être en faveur d'une solution juste et équitable du conflit, en mesure de garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination et à la pleine indépendance selon APS.
La question du Sahara occidental, ex-colonie espagnole, considérée comme un territoire non autonome par l'ONU, oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario soutenu par Alger. La tournée de M. Mistura a débuté mercredi dans la plus grande discrétion à Rabat. Ses prochaines étapes après Tindouf, Alger et la Mauritanie le 19 janvier.
Tension entre l'OMS et Addis Abeba, l'Organisation mondiale de la santé va continuer à réclamer l'accès de l'aide humanitaire au Tigré, région du nord de l'Éthiopie en guerre depuis plus d'un an, en dépit de la plainte déposée par l'Éthiopie contre son patron. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'OMS a affirmé dimanche être au courant que le ministre éthiopien des Affaires étrangères avait envoyé une note verbale, mais l'OMS va continuer à demander au gouvernement éthiopien d'autoriser l'accès de l'aide humanitaire aux 7 millions de personnes qui vivent au Tigré en Éthiopie et subissent de fait un blocus depuis plus d'un an, selon l'ONU, a insisté l'organisation. Géry, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé que nulle part ailleurs dans le monde, nous assistons à un enfer comme au Tigré. Addis Abeba a estimé jeudi dans un communiqué que les propos de Dr Tedros menaçaient l'intégrité de l'OMS en appelant à l'ouverture d'une enquête contre lui pour forfaiture et violation de sa responsabilité professionnelle et légale. Dr Tedros s'est immiscé dans les affaires intérieures de l'Éthiopie, y compris dans les relations de l'Éthiopie avec l'État d'Érythrée, a dénoncé le ministère éthiopien des Affaires étrangères. Le gouvernement éthiopien accuse le docteur Tedros de soutenir le front de libération du peuple du Tigré.
Les autorités américaines ont lancé hier une enquête de portée internationale sur le terroriste britannique mort la veille après avoir tenu plusieurs personnes en otage pendant 10 heures dans une synagogue du Texas, un acte de terrorisme dénoncé par le président Joe Biden et le Royaume-Uni.
Malik Faisal Akram, qui avait tenu des propos antisémites et anti-Israël, réclamait, selon plusieurs médias américains, la libération d'Aïfia Siddiqui, une scientifique pakistanaise condamnée en 2010 par un tribunal fédéral de New York à 86 ans de prison pour avoir tenté de tirer sur des militaires américains alors qu'elle était détenue en Afghanistan. La police britannique de contre-terrorisme a annoncé avoir arrêté hier soir deux jeunes en lien avec cette prise d'otage.
Les Russes et les Occidentaux restent sur des positions totalement divergentes malgré une semaine d'intense diplomatie. C'est l'aveu du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans un entretien avec la chaîne CNN, M. Peskov a déploré ces divergences entre son pays et le bloc occidental. Ce n'est pas bien, c'est dérangeant, a-t-il dit. Européens et Américains accusent les Russes d'avoir déployé près de 100 000 soldats à la frontière ukrainienne en vue d'une potentielle invasion du pays voisin. Le renseignement américain affirme même que Moscou a déjà déployé des agents dans l'est de l'Ukraine pour mener des opérations de sabotage visant à créer un prétexte pour une offensive. Le Kremlin a rejeté ces accusations et assure vouloir se défendre de la posture jugée menaçante de l'OTAN à ses portes. La Russie exige notamment la garantie que l'Alliance Atlantique n'acceptera pas l'adhésion de l'Ukraine, une concession de principe que refusent les Occidentaux. Le porte-parole du Kremlin a aussi rejeté les accusations selon lesquelles la Russie était derrière la cyberattaque de la semaine dernière qui a paralysé plusieurs services gouvernementaux ukrainiens pendant des heures.
Un nourrisson de 3 semaines est décédé au Qatar des conséquences d'une infection grave due au Covid-19, un cas rare annoncé dimanche par ce pays du Golfe. La mortalité due au coronavirus est très limitée chez les enfants, mais les autorités de santé de plusieurs pays ont enregistré davantage de cas d'infection parmi eux depuis la propagation du variant Omicron.
Ici aux États-Unis, alors que l'on célèbre aujourd'hui la journée Martin Luther King Jr., le leader assassiné du mouvement des droits civiques, des millions d'Américains se sont mis à l'abri dimanche pendant qu'une tempête hivernale majeure frappait l'est du pays.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali donc, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta est décédé hier. À l'âge de 76 ans, il a été chassé du pouvoir par un coup d'État le 18 août 2020 et avait fait plusieurs voyages à l'étranger pour se soigner. Que retiennent les Maliens de celui qui a dirigé leur pays pendant 7 ans? De Bamako, notre correspondant Mohamed Danyoko.
Hier, aux environs de 13h, c'était un balai incessant de grosses cylindrées au domicile de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, dont le décès venait d'être annoncé. Il est mort à son domicile dans la matinée des suites d'une longue maladie, selon le communiqué du gouvernement. Youssouf Kone, citoyen malien, dit ressentir une grande compassion pour un président dont les dernières heures de gouvernance n'ont pas été faciles.
Je crois que c'est une bien triste nouvelle pour le Mali et pour les Maliens. Et moi, de mon côté, je l'accueille plutôt avec un sentiment de compassion. Voilà, un sentiment de compassion. Pourquoi suite vraiment aux différentes circonstances voilà, qui ont précédé son décès. D'abord la révolte populaire contre lui et ensuite sa maladie.
Originaire du Nord, plus précisément de la région de Gao, Ibrahim Maïga s'est dit abattu par cette nouvelle. Il pleure un président qui, selon lui, était un démocrate et qui avait de grandes ambitions pour son pays.
Par rapport au décès du BK, moi personnellement, je suis vraiment touché. Et depuis ce matin, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a attristé, ça a beaucoup joué sur mon mental. Et depuis ce matin, voilà, je n'arrive pas à manger bien. Parce que Ibeka, pour moi, c'était vraiment un démocrate. Pour moi, c'était vraiment le président qui pouvait voilà, faire plein de choses pour le Mali. Mais malheureusement, Dieu a décidé ainsi.
Ambassadeur, député, ministre, premier ministre et enfin président de la République, Ibeka a été un grand commis de l'État. Pour Ibrahim Ndiaye, sa mort est une grande perte pour le Mali.
Moi, je pense que la mort du président Ibeka est une grosse perte pour notre pays. Étant donné que Ibeka il a occupé beaucoup de postes de responsabilité dans notre pays. Je retiens de cet homme un président qui voulait faire mieux pour son pays. Et un président qui avait la volonté de faire mieux pour son pays. Et un président qui aimait son pays. C'est ce que je retiens du président Ibeka.
Le gouvernement a fait un communiqué pour présenter ses condoléances et annoncer que les informations relatives à la cérémonie funéraire feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Bénin, la vie est de plus en plus chère et difficile pour le Béninois moyen, qui a du mal à s'offrir les 3 repas quotidiens selon notre correspondante sur place. Les autorités attribuent la situation aux effets néfastes de la pandémie, alors que les citoyens pensent qu'un peu plus d'efforts de la part du gouvernement pourrait rendre la tâche plus facile aux populations. Comment les Béninois gèrent-ils la cherté de la vie? De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
La flambée des prix des produits de première nécessité a entraîné une grogne sociale. Acheteurs comme vendeurs n'en peuvent plus des prix qui ont doublé pour certains, triplé pour d'autres.
On ne vend pas, on ne vend plus.
Aujourd'hui, tu viens, on te dit le poulet, le kilo, quoi là, normal, le kilo à 1500. Tu reviens à 18h, on te dit 1700. Aujourd'hui, on a 1900. Même ce que nous-mêmes nous produisons cher, là, c'est sérieux.
Lorsque le maïs sur le marché est à ce coût, 300 francs par endroit, le gari, il casse à 50 francs. Au lieu donc de subventionner ces produits vivriers,
nous avons faim. La nourriture, l'alimentation, c'est capital.
Sincèrement, ils n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à nous aider. Nous sommes oubliés. Nous sommes des enfants des pauvres. Ils n'ont qu'à nous aider. Sincèrement, le gouvernement n'a qu'à nous aider.
Les femmes au niveau des marchés se plaignent à longueur de journée. Elles espèrent le miracle qui tarde à venir, malgré toutes les promesses du gouvernement.
C'est ce que nous, les revendeuses, là, vraiment... La vie nous devient trop compliquée. Si tu achètes aujourd'hui à 7200, tu vends à 7500, tu vas aller réacheter encore. Tu arrives là-bas, on peut te dire que c'est 9000. Est-ce que les salons ont augmenté? Est-ce que nos revenus ont augmenté? Avec quoi on va les acheter? Donc, du coup, il n'y a pas de clients au marché. Il n'y a pas la vente. Les gens fuient toutes les choses de nourriture, de première nécessité là. L'huile, le riz, le sucre, tout est devenu augmenté. Donc, on fait quelque chose pour nous. On fait quelque chose pour nous, pour la population.
L'association des consommateurs reçoit tous les jours des plaintes et autres récriminations. Robin Akrombassi, le président, dénonce non seulement la cherté des produits de première nécessité, mais également l'inaccessibilité de certains services.
Il y a beaucoup de nos concitoyens qui meurent simplement parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer des médicaments, ils n'ont pas de l'argent pour manger à leur faim, ils n'ont pas de l'énergie électrique, ils n'ont pas de l'eau potable chez eux. Mais pendant ce temps, nous avons des fournisseurs de services et de biens qui abusent des citoyens consommateurs que nous sommes, qui nous prennent comme des moins que rien en tant que citoyens consommateurs et qui ne nous permettent pas de jouir normalement des services que nous payons. De façon globale, le tableau est sombre pour les citoyens consommateurs que nous sommes.
Pour le porte-parole du gouvernement, la situation actuelle est liée à la rareté des pluies, mais également à certains facteurs externes. Wilfried Léandre Rungedji.
Avec la situation née de la rareté des pluies, certains pays voisins ont entrepris de constituer des stocks de sécurité et ainsi, en dépit des conseils que le gouvernement, via les services techniques, a pu donner aux producteurs, certains d'entre eux se laissent appâter par le gain qui est proposé par les acheteurs étrangers qui viennent et qui ainsi s'approvisionnent chez nous, constituent sans doute des stocks de sécurité chez eux, mais cela crée certaines tensions sur notre marché et c'est ça qui explique la situation que vous avez observée au niveau des prix sur nos marchés.
Pour soulager les populations, le gouvernement a prévu dans le budget de l'État exercice 2022 des mesures pouvant permettre aux citoyens béninois de faire face à la situation qui risque de prendre de l'ampleur. Mais une mauvaise lecture des décisions prises par le gouvernement entraîne une surenchère qui ne dit pas son nom. De Cotonou, Jeanette Fleur Dandy pour VOA Afrique.
Au Sénégal, le gouverneur de la région de Dakar a interdit la circulation des mototaxis de plus en plus utilisés pour le transport public. Mais pour le gouverneur, la forte densité du trafic et les risques de sécurité ne sont pas compatibles avec cette pratique. Une dizaine de jours après, les habitants de Dakar continuent de solliciter les motos pour leurs déplacements. Reportage de notre correspondant Sedina Abagay.
Contesté dès sa publication, l'arrêté du gouverneur de Dakar n'a pratiquement jamais été respecté par les conducteurs de mototaxi, communément appelés tchak-tchak. Lamundong est conducteur de mototaxi.
La décision du gouvernement n'est pas la bonne parce qu'au moment où je vous parle, les embouteillages sont de trop. C'est avec ce travail que nous accomplissons nos devoirs d'assistance à l'endroit de nos parents. Quand on regarde ce pays, on se rend compte qu'il n'y a pas de travail et avec les motos, les gens vont plus vite, vendre vendredi dernier, j'ai déposé un gars qui était en partance pour les cimetières, pour les obsèques de sa mère. Si ce n'était pas ma moto, il serait en retard. Le gouverneur doit revoir sa décision parce qu'on fait aussi partie de la société.
Pour certains usagers, il est hors de question de renoncer à ce moyen de transport pratique, peu cher et qui permet d'échapper aux embouteillages. Zainab Diédiou.
C'est très dur avec le manque de voitures et tout. Ça va être compliqué avec le transport parce que nous, on prend toujours le Jakarta quand on est pressé. Donc, c'est un peu dur pour nous. Moi, je me disais tout le temps qu'il devait y avoir plus de motos que de voitures. C'est plus fort. C'est plus facile pour se déplacer.
D'autres pensent qu'au-delà de la mobilité, les motos peuvent permettre de diminuer la pollution car elles consomment moins.
La situation est très problématique parce que vu les embouteillages à Dakar, ce serait, je dirais, con ou stupide d'éradiquer cela parce que néanmoins, les taxis moto contribuent à l'élimination de la pollution. Parce qu'il n'y a pas assez qui consomme plus d'essence ou de gaz. Bon, je pense que c'est impossible qu'il éradique cela parce que c'est une bonne mesure pour une société d'adopter ce moyen de transport.
Les nombreuses agressions et accidents impliquant les motos ont poussé le gouverneur de Dakar à interdire les mototaxis dans la capitale. Cependant, la mesure est très peu respectée et les usagers sont les premiers à s'ériger en bouclier pour les conducteurs de motos qui contestent fortement cette décision de l'autorité administrative. Sérina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, quelques jours après la diffusion par VOA Afrique d'un reportage sur les difficultés des ex-miliciens dans le camp de transit de Moumabiro, dans l'est du pays, annonce du démarrage imminent du processus de démobilisation et de réintégration sociale des ex-miliciens par Tommy Tambwe, coordonnateur national du programme Désarmement, Démobilisation, Réhabilitation communautaire et Stabilisation. Une promesse qui a réjoui les anciens rebelles qui espèrent que le gouvernement ne va pas se limiter à de simples promesses. De Goma, notre correspondant Zanem Neti Zaidi.
Ces chansons sont entonnées par Tommy Tambwe, le coordonnateur national du programme des désarmements et des démobilisations, pour remonter les morales des ex-miliciens, issus des différents groupes armés, qui vivent dans des situations très difficiles dans les camps de transit de Moubambiro depuis plusieurs années. Le coordonnateur du nouveau programme des DDR leur a rassuré que le dénouement est pour bientôt, annonçant le démarrage effectif du processus des DDR dans 14 jours.
Je vais envoyer dans quelques jours les techniciens pour venir travailler sur les aspects désarmement et démobilisation. Par la suite, ils seront délocalisés dans un autre site que nous avons déjà identifié. Et très vite, les travaux d'aménagement de ce site vont commencer. Après ce travail, il y aura les opérations de suivi psychosocial, mais également la formation en citoyenneté pour qu'ils reviennent au bon sentiment, comprennent l'essence patriotique de servir la nation et la nécessité d'abandonner définitivement l'envie de reprendre les armes.
En attendant, ces ex-miliciens pourront bénéficier des soins médicaux et trouver de la nourriture au quotidien pendant leur séjour dans ces camps.
Nous avons promis d'améliorer les rations. Nous avons promis également de faire le nécessaire pour que leurs conditions de séjour soient améliorées en termes de cuisine, en termes de latrines et j'en passe.
Les ex-miliciens sont revigorés par cette bonne nouvelle qui, selon eux, arrive au bon moment. Ils ont déjà eu de telles promesses dans le passé et espèrent que cette fois-ci, elles seront tenues. Bahati Batunde Djeri est un ancien rebelle Maïmaï vivant dans les camps de transit de Moubambiro.
En tout cas, le message est Moukoubo,
Nous sommes très heureux d'entendre le message du coordinateur national du programme de désarmement et de démobilisation, parce que parmi nous, il y a d'autres rendus qui à cause de la misère que nous vivons ici, avaient l'intention de prendre de mauvaises décisions. Mais grâce à ses promesses, ils ont déjà changé d'avis. Nous lui demandons de tenir sa promesse dans les délais qu'il a mentionnés, car nous sommes du côté du gouvernement et notre seule préoccupation est de le servir.
Rappelons que c'est en début août 2021 que le président Félix Tshisekedi a nommé le coordonnateur national à la tête du nouveau programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Ce programme a été mis en place pour mettre l'Est de la RDC sur le chemin de la paix. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidoudia et John Linden. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.